France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord cette annonce qui pourrait ressembler à un nouveau pas vers la fin du bras de fer entre Pékin et Washington. La Chine annonçait cette nuit qu'un cycle de négociations commerciales avec les États-Unis s'ouvrira en octobre. Les deux pays ont accepté de prendre des mesures pour créer des conditions de discussion favorables. Voilà ce que précise le vice-premier ministre chinois. Depuis des mois maintenant, chacun impose à l'autre des hausses de droits de douane sur les produits exportés. Là aussi, c'est un bras de fer entre l'Iran et les Occidentaux. Téhéran ordonne à l'Organisation de l'énergie atomique iranienne de ne plus limiter la recherche et le développement dans le nucléaire. Le pays revient ainsi un peu plus sur ses engagements. Il continue de se doter d'équipements d'enrichissement de l'uranium. Cette décision confirme pour le moment l'échec de la médiation française pour amorcer un dialogue entre l'Iran et les États-Unis. Les votes s'enchaînent au Parlement britannique et avec eux les défaites de Boris Johnson. Dans la soirée hier, les députés de la Chambre des communes ont rejeté l'organisation d'élections anticipées mi-octobre, comme le proposait le Premier ministre. Quelques heures plus tôt, ces mêmes députés avaient adopté une proposition de loi le contraignant à demander un report de 3 mois du Brexit, sauf si un accord de sortie est conclu. Boris Johnson l'a refusé et c'est donc toujours l'impasse ce matin à Londres. Dans l'actualité française maintenant, la fin d'un faux suspense. Cédric Villani est officiellement candidat à la mairie de Paris pour les municipales du printemps prochain. Le député de la majorité dans l'Essonne était à Paris dans le 14e arrondissement hier soir pour annoncer sa candidature. Et il s'en est déjà pris à Benjamin Griveaux, le candidat désigné par La République En Marche. Enfin, ce gros dossier à Matignon aujourd'hui, les discussions débutent, reprennent en tout cas avec les partenaires sociaux sur la future réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe annoncera la semaine prochaine les choix retenus par l'exécutif en matière de méthode et de calendrier avant une consultation citoyenne. Nous reviendrons sur cette future réforme des retraites dans le journal de 6h30.
Les matins de France Culture, ce jeudi dès 7h et sur franceculture.fr.
C'est la rentrée, pour que ce soit moins dur, voici la rentrée littéraire. Nous vous la présentons dans les matins ce jeudi.
La rentrée littéraire sur France Culture, en partenariat avec l'Obs. Les matins, ce jeudi, dès 7h et sur franceculture.fr. Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Et pour le moment, il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son, Pascal Baudin et Adèle Caglar. Tous les jeudis, c'est l'actualité musicale et aujourd'hui, notre invité est Cheikh Tidiane Seck, figure historique de la scène musicale africaine des années pop 70, un des piliers de l'illustre Super High Band de Bamako, groupe mythique. Longtemps arrangeur et musicien avant de franchir le pas, d'enregistrer à 50 ans passés ses disques en solo et d'aller à la rencontre des musiciens du monde. Et parmi les belles rencontres de Cheikh Tidiane Seck, le jazzman Randy Weston, disparu l'année dernière. En guise d'hommage, Cheikh Tidiane Seck reprend et rejoue quelques thèmes de son ami pianiste new-yorkais dans un nouvel album intitulé Timbuktu qui sort la semaine prochaine, mais dès ce soir à la Cité de la Musique, dans le cadre de Jazz à la Villette et avec la complicité d'Archie Shep, Cheikh Tidiane Seck rend hommage à Randy Weston.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Masaba. Chebilibiliba. Et si nous allons rendre hommage au digne fils de l'Afrique, Monsieur Randy Weston. N'est-ce pas, Monsieur Antoine, Adama, Marc, Momo, Yeezy, Félix, Fatou Weston, ayant une pensée pour Monsieur
Le disque sort le 4 octobre, le disque Timbuktu, l'hommage donc de Cheikh Tidiane Seck à son ami Randy Weston. Et on vient d'écouter un extrait, Tanja. Ça veut dire Tanger, non?
Ça veut dire Tanger.
Et pourquoi?
Parce que dans sa quête d'Afrique, et il s'est posé, Randy Weston, et pour 5 ans, où il avait un club. Donc c'est une ville qui symbolise beaucoup. Pour lui. Donc j'ai voulu commencer par ce titre pour l'hommage, en fait.
Et en fait, le Maroc a joué un rôle très important. C'est dans ce pays-là que vous allez rencontrer Randy Weston, ou du moins que vous allez jouer avec lui et avec les musiciens Gnawa, non, Cheikh Tidiane Seck?
J'ai en fait rencontré Randy Weston chez moi à Bercy. Après,
à Paris, donc
Oui, à Paris. Et après, justement, mon album avec feu Monsieur Hank Jones en 1995. Et j'ai rencontré Randy par les hasards des choses et on est devenus amis, on se fréquentait. Quand je vais à New York, Brooklyn, comme lui, quand il vient ici, il est dans mon petit temple à Bercy.
Donc c'est pas seulement l'histoire d'un pianiste de Bamako qui rend hommage à un autre grand pianiste, lui, de New York. C'est plus que ça, c'est une histoire d'amitié, mais une histoire d'amitié avec des affinités musicales. De quoi vous discutiez, Cheikh Tidiane Seck, avec Randy Weston?
On parle du monde, de l'Afrique, de l'histoire africaine, de la musique. On parle un peu de tout, comme c'était avec... J'avais ce même rapport avec Hank Jones, avec Joe Zawinul, avec Ornette Coleman. Tous ceux avec lesquels j'ai partagé des moments de vie, donc de musique.
Mais Cheikh Tidiane Seck, vous avez rencontré beaucoup de musiciens noirs américains issus de la scène jazz.
Beaucoup, oui. Oui, d'autres scènes aussi, parce que...
Vous avez même joué avec Stevie Wonder, ça je le sais.
Oui, mais ça c'était un 4 mai. Ouais. Les gens faisaient... On a joué pendant une heure de temps, tout à fait, oui. Mais oui, j'ai joué, je pourrais dire, avec les Mos Def avec Graham Hines, la jeune pousse du jazz, avec Living Color. Mais je ne pourrais pas citer les gens avec lesquels je jouais. Parce que moi, ma vie est omnibulée par les rencontres humaines. Donc, en essayant justement d'être le plus juste possible quand j'ai l'autre en face, ça veut dire pas des juxtapositions de genre, mais plutôt une vraie communion. Quand on se rencontre, on partage quelque chose qui est vraiment pensé.
Et l'Afrique est très présente. Est-ce que vous pensez que ces musiciens noirs américains, quand ils viennent vous voir, vous, Cheikh Tidiane Seck, c'est-à-dire un des personnages centraux du renouveau de la pop africaine, de l'Afrique de l'Ouest, ils viennent aussi pour retrouver justement ces racines, cette culture?
Tout à fait, comme Don Cherry, je me souviens, en 88, on était tous les deux arrêtés et en Grèce, au bord de la mer, jusqu'à 6 heures du matin. Youssou N'Dour jouait, et lui, je venais de finir de jouer. J'ai été visiting professor à UCLA, Los Angeles. Et là-bas, qui j'avais comme mentor, c'était Billy Higgins et Kenny Burrell, etc., etc. Bon. Mais moi, je pense que Randy était quelqu'un d'humble, très grand par la taille et très grand par l'esprit, par le jeu aussi. Et notre rencontre n'était pas une rencontre comme ça, de surface, c'était profond.
Ouais, vous parliez en anglais avec lui? Vous parlez anglais, Cheikh Tidiane Seck?
Oui, il m'arrive de parler anglais. Étant donné que j'enseigne à UCLA, c'était pas en français.
D'accord.
Donc, j'enseignais en anglais.
Et par exemple, l'anglais, vous avez appris ça après votre arrivée à Paris dans les années 80 ou déjà quand vous étiez au Mali d'abord?
Au Mali.
Et en Côte d'Ivoire?
Au Mali d'abord. Au Mali parce que première formation musicale, ça a été à part ma maman qui était chanteuse. Ça a été par des sœurs catholiques. J'ai appris l'harmonium quand j'étais adolescent à l'église catholique. Donc,
comme Rémi Lema, l'église a joué un rôle très important pour, pour les pianistes du continent africain.
Tout à fait. Les rudiments, bon, la lettre à Élise, tu vois, la méthode rose, etc., etc. Bon, c'était mes bases, mais après, ces temps-là, j'écoutais beaucoup de Armstrong, j'écoutais tout ce qui est Motown, j'étais amoureux fou du son Motown.
Alors c'est ça donc l'histoire de cet hommage à Randy Weston, c'est l'histoire d'un Africain né au Mali, qui a été nourri à la musique américaine, qui va rencontrer plus tard des musiciens américains qui, eux, sont en pleine quête de leurs racines africaines.
Oui, tout à fait, comme à l'époque, même les artistes français étaient nourris à la source américaine, on pourrait le dire, plein de tubes de l'époque des années 70 sont inspirés et d'artistes venant de l'autre côté. Mmh. Et j'étais inspiré évidemment par cette musique-là, mais j'étais déjà ancré dans la musique de mon terroir, dans mon patrimoine, tu vois, dans le patrimoine de l'Afrique en général. Parce que j'étais curieux de tout. Et donc j'ai appris le high life, qui est plutôt Nigeria, Ghana, etc. La musique des Zoulous aussi.
L'Afrique du Sud, donc.
Voilà, et puis le Gnawa. C'est pour cela que je me suis amusé une fois à faire en 7 minutes le panorama de toute l'Afrique. En 7 minutes, j'ai fini à peu près tous les styles de l'Afrique. Il faut le faire. Bon, c'était une petite performance pour les choras qui équivaut au Grammy de l'Afrique, tu vois.
Et tout ça au piano, Cheikh
Tidiane Seck? Pas seulement piano, avec des arrangements d'autres, mais bon, le piano entre autres, mais avec les percussions, la guitare, les ngoni, la kora, il y avait tous les instruments.
On va parler de votre jeunesse maintenant, Cheikh Tidiane Seck, qui est aussi ma jeunesse. Pour rien au monde, je laisserai mes amis me prendre les quelques vinyles qui me restent de l'illustre Super Rai Band de Bamako. Vous avez fait partie de cette merveilleuse aventure.
Tout à fait.
Yeah.
nostalgie des années pop africaines, les années 70, sur France Culture, et en compagnie de Cheikh Tidiane Seck. Vous vous souvenez de cette année-là, en 1977, parce que l'album date de 1977, cet album du Super High Band de Bamako.
Mais je me souviens très 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 bien, et même, je dirais, est-ce que vous savez que la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Mori Kanté?
Ben si, bien sûr. Alors, il y avait qui? Il y avait Mori Kanté. Il y avait déjà Salif Keïta.
Non, Salif était parti depuis 73 aux ambassadeurs. Les ambassadeurs que j'ai fait aussi.
Mais que vous avez rejoint, bien sûr.
Oui, et donc, c'était Mori Kanté, là. Et la voix qui fait sa doublure avec dans les backing vocals, ça, c'était la voix des chants Bamana, pentatoniques. Maranganès, paix à son âme, qui nous a quittés l'année dernière. Oui, je lui rends hommage. Et aussi, je rends hommage à l'homme qui, pour moi, était Louis Armstrong de la musique malienne, Tidiane Koné. Grâce à qui, moi-même, Salif Keïta, Mori Kanté, nous pourrons dire, ouais, ben, écoute, nous avons embrassé le métier de musicien. Et c'est grâce à ce monsieur.
Il y avait aussi Amadou à l'époque, d'Amadou et Maria.
Amadou est mon ami d'enfance. Amadou, ce n'est pas un scoop. C'est moi qui l'ai amené dans les ambassadeurs en 74. C'est mon ami d'enfance.
Comment s'est faite votre initiation à la musique? Vous avez parlé bien sûr de l'église, de l'orgue. Et après, est-ce qu'il y a eu des cours de musique? Est-ce qu'il y avait des chanteurs, des chanteuses qui vous ont marqué, qui vous ont pris dans leur orchestre, Cheikh Tidiane Seck?
À 12 ans, je composais pour ma mère, qui était une très grande chanteuse, mais malheureusement, qui n'a jamais voulu qu'on enregistre sa voix.
Elle chantait pour les fêtes?
Elle chantait pour des fêtes et pour des circonstances sacrées aussi.
Et pourquoi elle ne voulait pas être enregistrée?
Parce que je vous dis tout de suite que ma mère est de 1902 et moi de 1952. Et donc il y avait 50 ans d'écart entre nous. Elle était tout pour moi. Elle m'a tout appris sans rien me dire. Donc, bon, quittons ce territoire-là. Toute mon énergie, tout ce que je tiens dans la vie dépend de ma maman, de l'amour que je lui ai donné et qu'elle m'a donné en me faisant, justement.
Alors, très longtemps, vous avez été plutôt musicien. Tout le monde vous connaissait.
Troubadour.
Tout le monde savait que vous étiez le meilleur arrangeur. Mais vous ne vouliez pas être chanteur, être mis devant la scène. Pourquoi, Cheikh Tidiane Seck?
Parce que...
Il a fallu attendre 50 ans pour que vous enregistriez votre premier album solo.
Est-ce que vous savez que je suis peintre?
Non.
J'ai jamais été deuxième aux Beaux-Arts. J'ai fini les Beaux-Arts, j'ai enseigné la peinture 4 ans au lycée. Ma maman... Son approche avec la musique, c'était ça. On ne m'enregistre pas. Parce que pour moi, même vendre mes toiles, j'avais un pincement au cœur. Pour moi, j'étais pas dans la prédisposition de vendre une œuvre. L'œuvre, quand, les moments que je partage avec vous là, l'énergie là, n'est pas quantifiable. J'étais dans cette vieille école là. Peut-être que bon, après maintenant, j'ai changé maintenant.
Vous avez changé maintenant?
Ben oui.
On vous a longtemps appelé Che Guevara.
Tout à fait. À cause de mes petits déboires avec le régime militaire en place à l'époque, où quand on donnait des mobilettes aux uns et aux autres, je ne citerai pas de nom. Et moi, j'étais au régime d'emprisonnement. Et c'est ce qui a fait que ma maman m'a dit fin 78, tu as ma bénédiction, tu peux aller là où tu veux. Parce que j'étais vraiment guévariste. Et je suis toujours Che Guevara. Dans la mesure où j'ai envie de communier avec les gens avec mes mots.
Pourtant, les chansons, aussi bien du Super High Band de Bamako que ce que vous reprenez dans vos disques solo, puisque vous en enregistrez depuis quelques temps, ils ne sont pas politiques.
Si. Le dernier guerrier, il faut l'écouter.
Oui, bah, j'ai écouté, bien sûr. Voilà, bien sûr.
Je parle d'immigration, des sujets épineux dont les gens ne veulent pas parler. Je parle aussi de non-partition de mon pays pour des intérêts, des ressources que tout le monde, nul n'ignore. Je parle d'injustices que beaucoup de mes compères préfèrent ne pas souligner. Moi, mon art... Si c'est pour fédérer une vraie hygiène de vie, ça doit passer par retracer la vérité de notre quotidien. Et elle n'est pas du tout si tendre qu'on veut le faire croire. Pourtant, une vraie communion et puis un langage de vérité s'avère nécessaire pour que réellement on apprenne les uns des autres, que les Français, les Européens, les Américains apprennent des Africains, vice-versa, qu'on apprenne aussi d'eux. Mais je pense que l'échiquier n'est pas là, les gens sont pressés, la société de consommation.
En début de semaine, on a lu un article dans Libération où Jacques Denis venait chez vous, il décrivait votre appartement parisien. Alors c'est simple, il y a des instruments de musique un peu partout, compris dans votre chambre.
Oui, tout à fait.
Paris, c'est la ville où vous êtes venu à l'époque.
Avec les ambassadeurs, avec Salif.
C'était l'époque où il y avait une scène musicale africaine à Paris. Paris se targuait d'être la capitale de la world music à l'époque.
Non, j'aime pas le mot world music. Pourquoi est-ce que nous, on doit être des musiciens de world music, tiers music? Ils ont créé le tiers monde. Moi, je suis pas un musicien de tiers musique ou de musique du monde world music. Ce n'est pas contre ceux qui ont créé ces sobriquets-là. Mais je pense que c'est paresseux. Les gens doivent être curieux. Moi, si c'est une musique, un mongol qui fait de la création mongole, j'ai envie de dire que sa création, c'est une création mongole. Un breton fait, comment dirais-je, il rencontre un genre de kora et qui fait une création, ça doit s'appeler, et, par exemple, Pierre-Paul ou Jacques. Pas donner facilement tout ce qui n'est pas musique.
Chic Tidiane Seck, bien sûr, on a compris, vous avez complètement raison. Le fait de vous installer à Paris avec Salif Keïta, c'était les années 80, avec Salif Keïta, et puis ensuite vous allez travailler avec Maury Kanté. Paris est une capitale ouverte à toutes les musiques, y compris au renouveau de la pop africaine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous en êtes où? Est-ce que vous faites toujours des voyages à Bamako? Est-ce que vous sillonnez encore l'Afrique?
Je n'arrête pas. Je voyage tout le temps. Et je suis parrain d'un festival au Mexique. C'est le seul endroit où je joue devant 120 000 personnes. Au Lincoln, ça s'appelle. Festival des cultures en résistance. Je suis pas un résistant, mais je veux dire, j'ai jamais coupé avec le Mali. Et Paris, à l'époque, comme vous dites, là, des années 80, eh ben, Paris, j'aimais beaucoup, parce que tu vas à n'importe quel recoin, il y avait des pubs où ça jouait de la musique, c'était démocratique. Ça veut dire, ils rencontraient tous les styles.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous voulez dire?
Non, ce n'est plus le cas, parce qu'apparemment, plein de clubs ont fermé. Les Filouanes, pour ne citer que cela, plein de clubs ont fermé. Parce que nuisance, bruit, et soi-disant, c'était l'argument. Mais non, l'échiquier a changé, ils ont voulu tout aseptiser. Donc maintenant, tu vas dans une boîte de nuit, tu vas t'éclater. Mais pas dans un bar où il y a de la musique live, malheureusement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Aubeka sabali, atwanga sabali, o sabali.
On a reconnu la voix d'Oumou Sangaré dans le morceau de Sabali, c'est extrait de votre album. Ça veut dire quoi Sabali?
Sabali, c'est...
Chic Tidiane Seck.
Pardon. Le pardon, c'est l'abnégation.
Dans le sens spirituel du terme?
Tout à fait, spirituel et nom spirituel aussi.
Parce qu'on vous appelle Black Bouddha, j'ai appris dans le petit milieu de la musique.
Oui.
C'est qui a inventé ça?
C'est un journaliste qui a vu une photo de moi où j'étais assis, position Lotus, l'album Mandingo.
Ouais.
Il dit, mais attends, il ressemble à un Bouddha noir. Et là, c'est parti de là. Brice Aounou. Et donc, ils m'ont surnommé Black Bouddha. Mais tout le monde m'appelle Guerrier.
Vous préférez
Che Guevara, hein?
Vous préférez Guerrier, Che Guevara?
Maintenant, ces temps-ci, à Bamako, ils commencent à m'appeler même Black Shaman. Donc, ils vont continuer de me donner des surnoms de toutes les façons.
Alors, qu'il suffit de dire Chic Tidjiansek pour savoir à quelle pointure on a affaire. Ce soir, donc, Jazz à la Villette, à la Cité de la Musique, pour ce concert en hommage à Randy Weston, avec, entre autres, musicien Archie Shepp. Comment vous avez conçu ce spectacle et ce disque? Vous avez repris les morceaux de Randy Weston et vous les avez interprétés à votre manière. Vous vous êtes souvenu des discussions que vous aviez eues avec votre ami pianiste new-yorkais et vous avez essayé d'écrire une musique qui pourrait rendre compte de ces échanges. Comment vous avez fait?
Ben j'ai été curieux de sa musique, de son univers musical, et de son parcours et de ses envies aussi. Parce que pour ses 90 ans, il y a 2 ans,
ouais,
il m'a invité à jouer avec lui à Jazz à Vienne. Et donc après, il m'avait donné une clé USB où il y avait le morceau Timbuktu, 2 minutes, que j'ai réarrangé. Bon, peut-être 9 minutes, je n'ai pas regardé dans le temps parce que je ne suis pas esclave du temps, je possède le temps.
Donc l'idée, c'était de partir à chaque fois d'une composition de Randy Weston, voilà, pour écrire les pièces de votre album qui sort donc bientôt la semaine prochaine, le 4 octobre, Timbuktu.
Oui, non, c'était une relecture de l'œuvre de Randy avec mes mots. C'était plutôt ça. Et pour ça, j'ai invité l'aîné Manu Dubango, sur 2 titres, Timbuktu et African Cookbook, Abdel Malik sur Timbuktu, et Ali Wagé aussi, et puis Majid Beka, c'est le joueur de Gumbri qui a joué déjà avec Randy.
Bien sûr.
Et dans Blue Moses, et aussi il y a Mark Gilmore, mon batteur de Brooklyn, Adama Bilorou Dambélé de Burkina Faso, et percussion, et Mohamed Momo Afsi, contrebasse.
Ils seront tous Yeezys, là ce soir?
Oui, Yeezys, Yod, saxophoniste, jeune saxophoniste promoteur de Côte d'Ivoire. Et voilà notre monde. C'est avec tous ces featuring que nous allons essayer de dire au revoir, Monsieur Randy.
Ça se passe donc ce soir, à la Villette, dans le cadre de Jazz à la Villette, à la Cité de la Musique. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Chic Tidjiansek.
Merci, merci à vous.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
C'est la rentrée à l'Auditorium de Radio France. Le 18 septembre, Berlioz, avec Marie-Nicole Lemieux, l'Orchestre National de France et Emmanuel Krivine. Le 20 septembre, Stravinsky, Ravel et Prokofiev, avec Nikolaï Louganski, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Nico Franck. Le 22 septembre, Carmina Burana de Karl Orff, avec l'Ensemble Stop, la Maîtrise et le Chœur de Radio France et Martina Batic. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr. Concert en partenariat avec la Biennale Paris 2019.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les députés britanniques ont contrecarré les plans de Boris Johnson. Une série de camouflets et un Brexit dur qui s'éloigne. Nous reviendrons sur la journée d'hier au Parlement à Londres. Ce sera dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la proposition de Christine Lagarde, future présidente de la BCE. La dirigeante actuelle du Fonds monétaire international veut un forum ouvert aux citoyens et aux citoyennes. Et puis sur quel point vont se battre les syndicats en France à propos de la future réforme des retraites? Réponse dans ce journal alors que les partenaires sociaux commencent à être reçus aujourd'hui à Matignon. Boris Johnson a donc multiplié les revers hier au Parlement britannique. Privé de majorité, lâché par une partie des conservateurs, le Premier ministre a été empêché d'appliquer un Brexit sans accord, de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections législatives. Antoine Gignot.
C'est une triple défaite pour Boris Johnson. Il promettait de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Quoi qu'il arrive, il ne pourra probablement pas mener son projet jusqu'au bout. Le texte voté hier soir, et qui doit maintenant être validé par les Lords, oblige le gouvernement britannique à demander un report du Brexit si aucun terrain d'entente n'est trouvé dans les semaines qui viennent avec les chefs d'État européens. Mais le Premier ministre a aussi perdu dans la bataille sa majorité et le soutien d'une vingtaine de députés conservateurs rebelles. Et sa tentative de dissoudre le Parlement en organisant des élections anticipées s'est soldée également par un échec. Les travaillistes et les libéraux démocrates le soupçonnent d'avoir voulu déclencher le scrutin pour se débarrasser des parlementaires et organiser en douce le Brexit. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, le compare à la méchante reine qui propose à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Fin de séance donc au milieu des moqueries pour Boris Johnson, dirigeant sans pouvoir d'un pays qui continue de faire partie de l'Union européenne.
Eux veulent reprendre du pouvoir. Les populistes du mouvement 5 étoiles en Italie confirment leur alliance avec le Parti démocrate de centre-gauche. Giuseppe Conte conserve ainsi son poste de président du Conseil. Il a présenté hier le nouveau gouvernement italien au président Mattarella, gouvernement qui va prêter serment ce matin. Il est composé de 21 ministres avec un objectif, éviter la récession économique de l'Italie. La Commission des affaires économiques du Parlement européen valide la désignation de Christine Lagarde comme présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ce vote est consultatif. Hier, Christine Lagarde s'est adressée aux députés européens, proposant notamment d'ouvrir la BCE aux citoyens. Elle se dit même favorable à la tenue d'un forum ouvert à toute la société civile. C'est une demande de longue date de l'ONG Positive Money Europe que dirige Stanislas Jourdain.
Ça, c'est assez positif et c'est vrai que ça dénote pas mal avec le langage et les discours de Mario Draghi qui était vraiment dans une communication orientée vers les marchés, pour les marchés. Et nous, on est une organisation où on tente un peu de faire l'interface entre les citoyens et les institutions. Et pour nous, c'est vrai que ça nous prend beaucoup d'énergie en fait de devoir expliquer les acronymes, le langage compliqué des banques centrales. Et c'est vrai que nous, ça nous aiderait en fait pour influencer la BCE si davantage les citoyens pouvaient comprendre en fait. Quand la BCE dit on va lancer du quantitative easing ou des TLTRO, je veux dire, les gens, ils peuvent rien y comprendre, mais c'est bien normal. Alors qu'en fait, on pourrait tout simplement dire que la BCE fait de la création monétaire. Et ça, en fait, les citoyens peuvent le comprendre. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si la BCE veut vraiment changer de fusil d'épaule là-dessus et adopter un langage très clair, elle va finalement devoir être obligée d'appeler un chat, en fait, et de dire très clairement, oui, nous créons la monnaie, oui, nous l'achetons en échange d'actifs que l'on donne seulement aux banques et seulement aux acteurs financiers. Et donc, les citoyens pourront davantage comprendre qu'effectivement, ils ne bénéficient pas directement des bénéfices de la politique monétaire, alors qu'en fait, les banques, les investisseurs et les assurances, elles, peuvent en bénéficier. Donc, c'est ça, justement, qui sera intéressant, c'est que ça va forcer les représentants des banques centrales à se confronter aux questions difficiles, en fait, du public et auxquelles, aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse.
Stanislas Jourdan, interrogé pour France Culture par Marie Vienno. Les tensions entre le Venezuela et la Colombie augmentent. Cette nuit, les autorités colombiennes se sont dites prêtes à défendre leur souveraineté face à ce qu'elles qualifient de menace du président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce dernier avait accusé Bogota de se servir de l'annonce du retour des anciens chefs des FARC pour déclencher un conflit militaire avec le Venezuela. La dissidence des FARC, justement, en Colombie, elle se structure. Son ancien numéro 2, Ivan Marquez, vient d'annoncer la création d'un mouvement politique clandestin. Il porte le nom de Mouvement Bolivarien pour la Nouvelle-Colombie et il œuvrera donc en secret. Marquez, ancien chef négociateur de l'accord de paix signé en 2016, est activement recherché par la justice colombienne. Ce projet de loi, nous n'allons pas le préparer seul, mais nous allons le faire en écoutant les partenaires sociaux, en écoutant les Français. Voici la promesse faite hier par Édouard Philippe. Le Premier ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les partenaires sociaux à Matignon. Un nouveau cycle de négociations sur la réforme des retraites. Un nouveau cycle de négociations sur cette réforme qui est toujours en discussion donc avec les partenaires sociaux. Et il s'agit de supprimer, je vous le rappelle, 42 régimes spéciaux. Reste maintenant à savoir à quel âge la retraite débutera en France. Y aura-t-il un âge pivot à 64 ans ou un allongement global des cotisations? L'exécutif veut se montrer ouvert et tente de charmer certains syndicats, un syndicat en particulier, Annabelle Grelier.
Était-ce pour faire un appel du pied au patron de la CFDT, Laurent Berger, que le président Macron avait fait une petite volte-face fin août sur le recul de l'âge à la retraite? L'intéressé, en tout cas, assure qu'il ne se fera pas amadouer avec si peu. Certes, la CFDT est le seul syndicat favorable à un système universel, mais Laurent Berger ne veut pas pour autant de recul de l'âge à la retraite, ni d'allongement supplémentaire de durée de cotisation. Pas besoin, estime-t-il. Pour donner son aval à cette réforme, ses conditions portent plutôt sur une pension minimum à 100% du SMIC, une retraite progressive ou encore la prise en compte de la pénibilité. Les autres syndicats ne seront pas aussi conciliants. Les plus durs à convaincre seront Force Ouvrière et la CGT qui ont déjà assorti leur venue d'un préavis de grève. Force Ouvrière est opposée au principe d'un système unique par points. Son patron Yves Verrier estime qu'on peut améliorer les dispositions dans le cadre des régimes existants. Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, tient le même discours. Il y a besoin d'améliorer ce système, mais pas de tout changer, affirme-t-il, jugeant que le système par points est injuste. Du côté du gouvernement, on répète à l'envi que depuis la crise des Gilets jaunes, on a compris la leçon. Plus de verticalité du pouvoir. Édouard Philippe assure que pour cette réforme des retraites, on va écouter, questionner, apprendre et tenir compte de ce qui aura été entendu. Reste à savoir quelles voix porteront et vers qui le Premier ministre tendra l'oreille.
Premier rendez-vous donc à Matignon ce matin à 10h30, ce sera pour Force Ouvrière. Le ministre de l'Agriculture refuse l'instauration de zones sans pesticides dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation en France. Une telle mesure empêcherait l'agriculture française d'instaurer l'autonomie alimentaire du pays, selon Didier Guillaume, qui estime que cela gonflerait les importations. En août dernier, le maire de la commune de Langouette en Ille-et-Vilaine avait tenté d'interdire l'épandage de produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Arrêté municipal qui avait été suspendu par la justice. Il l'a dit, Cédric Villani est officiellement candidat à la mairie de Paris pour les prochaines municipales. Prétendant malheureux à l'investiture de La République En Marche, il enfonce ainsi une épine dans le pied du candidat désigné, Benjamin Griveaux. Député de l'Essonne, mathématicien, Cédric Villani bénéficie d'une notoriété montante auprès des Parisiens. Retour sur cette soirée de lancement hier soir à Paris, ce sera dans le journal de 7h. Avant cela, penchons-nous sur un livre qui a fait réagir hier le pape François dans l'avion qui l'amenait au Mozambique. Bruce de Galzin était présent pour France Culture.
Comment l'Amérique veut changer de pape? C'est le titre du livre que son auteur, le journaliste de la Croix Nicolas Senez, a offert à François dans l'avion papal. En prenant en main l'ouvrage, le pape a spontanément réagi. « Pour moi, c'est un honneur que les Américains m'attaquent », a-t-il dit, ajoutant « Ce livre est une bombe ». Nicolas Senez y explique comment une partie du catholicisme américain a voulu se débarrasser de François en multipliant les attaques contre lui. Il revient notamment sur l'affaire Vigano, cet ancien nonce apostolique très conservateur aux États-Unis, qui a appelé dans une lettre à la démission de François, affirmant qu'il avait couvert les actes pédophiles d'un cardinal. Dans son livre, le journaliste revient plus largement sur les raisons qui opposent une partie des Américains au pape, la critique du libéralisme, la peine de mort ou encore les relations avec la Chine communiste. Le journaliste de la Croix va même plus loin en enquêtant sur cette frange de catholiques riches et très conservateurs qui lèvent des fonds pour contrer les idées du pape et préparent déjà un nouveau conclave pour y placer leur candidat. Dans une tentative de déminage, le porte-parole du pape a tenu à relativiser les mots de François, expliquant que le pape avait voulu dire qu'il considérait toujours comme un honneur les critiques, et particulièrement d'une nation importante.
C'est Bruce de Galzin pour France Culture. La pluie s'étend ce jeudi sur le nord de la France, du sud de la Normandie jusqu'à la Lorraine ce matin, puis jusqu'à la Franche-Comté dans l'après-midi. Ailleurs, les nuages seront de plus en plus présents, notamment sur le Pays Basque. Côté température, Météo France prévoit dans la matinée 15 degrés à Brest, 17 à Lille, Paris, Strasbourg, 19 degrés à Bordeaux et à Lyon, 25 degrés ce matin à Marseille.
Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
À 6h40 sur France Culture, c'est l'heure de votre journal des idées. Et avec le retour des nuages, de la pluie, la période estivale s'achève. Jacques, ce matin, vous nous rappelez l'importance que les Français accordent au travail. Les enquêtes internationales s'en font écho.
Et oui, c'est Dominique Méda qui insiste sur ce point qui peut paraître étonnant tant on nous rabâche que nous travaillons moins que les autres. Dans la dernière livraison de la revue Zadig, elle parle même d'une spécificité française. Dans toutes les enquêtes internationales sur le sujet, les Français sont parmi les plus nombreux à dire que le travail est très important. Ils sont 67% dans ce cas, contre 45% en moyenne chez nos voisins allemands ou britanniques. La sociologue explique que parmi les dimensions plébiscitées, c'est l'intérêt intrinsèque du travail qui est valorisé, c'est-à-dire ce que je fais concrètement dans mon activité de travail et les relations que j'établis avec les autres à travers ce lien. Ce que certains appellent aussi la dimension expressive ou post-matérialiste du travail. Le taux de chômage est sans doute un facteur explicatif de cet engouement, mais il y a aussi une dimension culturelle. Les pays anglo-saxons semblent avoir un rapport plus pragmatique, plus utilitariste au travail. Celui-ci permet de subvenir à ses besoins, mais ne définit pas pour autant entièrement les personnes, alors que les pays latins seraient davantage des sociétés de statut dans lesquelles le travail est un marqueur social extrêmement puissant. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes, ce qui est paradoxal dans la mesure où ils sont particulièrement maltraités sur le marché du travail. Un travail qui a du sens permet de se réaliser. Mais avec la robotisation et l'asservissement du travail sur les plateformes ou dans les entrepôts, cette dimension disparaît. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la taylorisation du travail, observe Dominique Méda, dans laquelle toutes les tâches, même intellectuelles, peuvent être séquencées. Et l'on sait que c'est un facteur de perte de sens. De même, l'ubérisation de l'emploi sous couvert de liberté dans le travail permet le plus souvent de contourner les règles du salariat en refusant d'assumer les contreparties qui incombent à l'employeur dès lors qu'il tire un bénéfice de la force de travail d'un individu. Le salariat, qui n'est sans doute pas la forme la plus accomplie d'exercice du travail, en reste à ce jour la forme la plus civilisée. Dominique Méda évoque aussi les nouvelles perspectives ouvertes par la transition écologique. Il faudra plus de travail humain, non pas moins, et davantage de travail manuel. Dans ce numéro de la revue Zadig, Arthur Lockman évoque l'engouement actuel pour les métiers manuels. Des jeunes, notamment, que leur parcours scolaire destinait à d'autres activités, ont choisi la voie, je cite, de la crasse et des douleurs aux doigts, la vie au grand air et dans les éclats de voix, obéissant à un besoin impérieux de retrouver la matière disparue derrière les écrans. Lui-même, Arthur Lockman, étudiant en philo devenu charpentier, a publié un beau livre chez Payot sous le titre « La vie solide, la charpente comme éthique du fer » où il vante par exemple les mérites du tenon mortaise, une pièce mâle terminée par un tenon qui s'enchasse dans une pièce femelle creusée d'une mortaise. C'est le système par excellence de la charpente. Et ce mot « charpente » évoque pour lui une forte chair en pente, sonore et franche, un mot qui s'est décliné dans notre langue pour désigner l'ossature des corps ou l'organisation d'un raisonnement. Le charpentier travaille avec le bois car il offre des performances exceptionnelles au regard de son poids et de sa facilité de mise en œuvre. Comment scier correctement sans dévier ni multiplier les entailles avant d'assurer son plan de coupe ? Faire en sorte que la scie trouve sa voie, comme disent les anciens, car ce n'est pas la force qui coupe, mais le passage des dents sur la fibre. On y parvient en intégrant dans le geste non pas la seule main, mais tout l'ensemble qui part du bout de la lame jusqu'à l'épaule en passant par le poignet et le coude, jusqu'au positionnement des jambes dont découle l'orientation du bassin et du buste par rapport à la coupe. Ici, comme dans bien d'autres pratiques, le bon geste de la main puise sa force dans le sol et l'outil dans le prolongement du bon geste quand on commence à sentir directement à travers lui. C'est une merveilleuse extension du monde qui s'opère avec un tel développement du toucher. La dernière livraison de la nouvelle revue du travail publiée chez RS propose un dossier sur le corps au travail. Bien que certains sociologues aient engagé leur propre corps en travaillant comme ouvrier, Donald Roy, Robert Linhart ou Michael Buravoy, la sociologie du travail a longtemps tenu à distance l'objet corps. Le dossier en explore plusieurs dimensions, le corps comme lieu de projection du pouvoir, le corps comme rapport pratique au monde, le corps comme marché marchandise, car c'est en lui que se cristallise la double nature du travail, à la fois contrainte et agir créatif, quand le geste de l'artisan expérimenté revêt la beauté de l'évidence. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Hong Kong, le retrait du projet de loi d'extradition suffira-t-il à apaiser les tensions?
Eh bien c'est ce que veut croire en tout cas la presse chinoise ce matin, notamment l'éditorial du China Daily qui écrit que les manifestants à Hong Kong n'ont plus de prétexte pour recourir à la violence puisque la chef du gouvernement local, Carrie Lam, a retiré ce projet de loi autorisant les extraditions de citoyens vers la Chine. Texte à l'origine de plus de 3 mois de manifestations, de répression policière et de crise politique. Carrie Lam a donc dit hier retirer ce projet pour, je la cite, apaiser complètement les inquiétudes de la population comme si c'était le seul grief des opposants. Bonjour Éric Florence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez jusqu'à il y a quelques semaines encore, voire quelques jours, directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Vous venez tout juste de rentrer de cette longue mission de 4 ans. Vous êtes chargé de cours à l'université de Liège. Alors Éric Florence, Carrie Lam m'avait dit pendant une conversation privée avec des hommes d'affaires qui avaient fuité dans la presse il y a 2 jours qu'une fois qu'une question atteint une dimension nationale, la marge de manœuvre du chef de l'exécutif à Hong Kong est très 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 limitée. C'était ces mots donc. C'était un aveu par anticipation que ce n'était pas elle qui allait prendre la décision de retirer ce projet de loi.
Non, donc ça montre, enfin, en tout cas ça indique une contrainte assez forte et une dépendance très forte donc, du gouvernement de l'exécutif hongkongais par rapport aux autorités centrales à Pékin. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la crise politique actuelle reflète et met en lumière les failles du un pays de système dans le sens où ce principe d'un pays de système, c'est un haut degré d'autonomie du gouvernement de Hong Kong et aussi les Hongkongais qui gouvernent Hong Kong. Or, vraiment, là, je pense qu'à Hong Kong, en particulier, plus personne ne considère que l'exécutif hongkongais a vraiment son mot à dire et qu'il reste souvent quelqu'un qui décide.
Le principe un pays deux systèmes, c'est celui qui régit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 97, mais acté 13 ans plus tôt, en 84, par le premier ministre chinois de l'époque, Zhao Ziyang et Margaret Thatcher. Aujourd'hui, les opposants disent qu'on est plutôt dans un pays, un système, 2 ou 3. C'est ce que dit par exemple le parti démocisto. Pourquoi Pékin aurait pris cette décision? Il n'avait pas le choix en fait, c'était ça ou intervenir militairement?
Alors l'intervention militaire, on peut penser que bien qu'on ne puisse pas dire qu'elle soit impossible, on peut penser qu'elle reste quand même hautement improbable, étant donné que les coûts en termes d'image pour la Chine seraient sur le plan international énormes. Ce serait assez catastrophique parce que bon, en plus la Chine depuis pas mal d'années construit une image d'une puissance raisonnable à l'international, tant sur le plan économique que politique. Et une intervention serait tout à fait dommageable sur ce plan-là. Donc je pense que ça reste quand même très peu probable. Alors la question, c'est évidemment que l'exécutif hongkongais est extrêmement limité dans ses possibilités de négociation, étant donné que le Parti communiste chinois a mis la barre très haut sur le plan interne, c'est-à-dire en Chine même, au niveau de la propagande, et donc d'une interprétation des manifestations étant essentiellement fomentée par des puissances extérieures et donc finalement une logique assez binaire en quelque sorte.
Comment vous interprétez les mots de Carrie Lam quand hier dans une lettre aux parlementaires de Hong Kong elle écrit « We may then mend the fence », donc ce qu'on pourrait traduire en français par « il faut qu'on répare les barrières ou qu'on apaise les tensions », c'est une phrase qui a été très commentée, comment vous l'interprétez vous?
Mais écoutez, en fait, déjà depuis plus de 2 mois, les tensions sociales, économiques, politiques, qui sous-tendent finalement la crise actuelle ont été quand même martelées par la presse, par les réseaux sociaux, y compris par ses propres conseillers. Il faut rappeler que le 25 août dernier, par exemple, Carrie Lam a réuni 19 personnes afin de discuter des meilleurs moyens de sortir de la crise actuelle. Et plus de la moitié ont demandé à Carrie Lam de mettre en place une commission indépendante et le retrait du projet de loi. Alors c'est vrai que dans sa déclaration d'hier, dans le quatrième point, elle parle de la mise en place d'une plateforme avec des académiques et des personnalités pour explorer les causes du malaise actuel. Et elle cite effectivement les causes économiques, sociales, politiques, mobilité sociale bloquée, la question de la terre et du logement, etc., y compris la réforme du système politique. Donc on peut voir dans ces déclarations finalement une manière de dire à la population congolaise « nous avons entendu ». Après, est-ce que ça peut être efficace par rapport à un apaisement? On peut en douter, tant finalement le mouvement est passé quand même d'une opposition au projet de loi davantage vers une dénonciation des violences policières et aujourd'hui véritablement un affrontement avec la police et aussi une demande de réforme politique par rapport à un système politique qui n'était très peu représentatif en fait.
Ouais, ce sont des revendications qu'expriment aujourd'hui les opposants, cette commission d'enquête sur les violences policières, l'amnistie des manifestants susceptibles d'être poursuivis en justice. Je rappelle que plus de 1100 personnes ont été interpellées d'après Pékin, d'ailleurs ce sont les chiffres officiels, et puis surtout l'élection pendant les manifestations, et puis surtout l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif. Jusqu'où peut aller Carrie Lam dans ce qu'elle considère comme une main tendue envers ces manifestants?
Je pense que la marge de manœuvre, encore une fois, est extrêmement limitée, en tout cas à court terme, très certainement, et notamment, encore une fois, parce que la barre est mise assez haut en interne au niveau de la Chine, au niveau de la propagande, par rapport à une caractérisation des manifestants comme des émeutiers et comme étant véritablement une menace à l'ordre et à la loi et au système, au principe d'un pays de système. D'ailleurs, Carrie Lam, dans sa déclaration d'hier, on voit bien que c'est une déclaration qui essaie de jongler entre une position finalement d'équilibriste, hein, entre d'une part, nous avons entendu, et d'autre part, reprend en fait la critique de Pékin. Donc la marge de manœuvre sur le court terme semble extrêmement étroite.
En 2014, il y avait eu un grand mouvement, évidemment aussi populaire à Hong Kong, le mouvement des parapluies, des milliers de personnes qui avaient manifesté contre le projet de Pékin, cette fois de limiter la portée du suffrage universel, du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong. Deux ans plus tard, en 2016, il y a eu des élections et de jeunes localistes, comme on dit, ont été élus, des opposants au régime de Pékin, mais disqualifiés aussitôt après intervention de Pékin. Donc de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive à Hong Kong, la Chine finit par intervenir, Pékin finit par s'immiscer dans les affaires.
Écoutez, en fait, quand on regarde historiquement depuis 89, les différentes crises qui ont secoué en quelque sorte Hong Kong, 1989, 2003, 2011, 2012, 2014, à chaque fois ça a été suivi d'un resserrement de la part des autorités centrales. Et il faut quand même souligner que depuis 2014, non seulement les problèmes politiques et socio-économiques qui étaient à la base du mouvement de 2014 se sont aggravés depuis, y compris sur le plan socio-économique. Donc quelque part, je veux dire, les causes profondes sont toujours là.
Alors, selon cette déclaration sino-britannique que vous avez citée tout à l'heure de 1984, Hong Kong peut garder jusqu'en 2047 ce système politique, économique et juridique distinct avec un, entre guillemets, c'est dans les textes, degré élevé d'autonomie. Mais quand Deng Xiaoping a signé cet accord avec Margaret Thatcher, est-ce qu'il avait dans l'idée que Hong Kong devienne comme une ville chinoise ou que n'importe quelle ville chinoise devienne comme Hong Kong ?
Très difficile de répondre par rapport à la fin de votre question, mais pour ce qui est de 2047, on peut peut-être dire deux choses. D'une part, c'est que on peut envisager qu'il y ait une période de transition avant 2047 pour faire en sorte que en 2047, Hong Kong ne perde pas toute spécificité, parce que ça restera probablement encore utile pour l'économie chinoise. Par contre, il est probable, il est à craindre que Hong Kong, avant 2047, n'ait perdu ce qu'il a défini en termes de liberté politique, ou en tout cas l'essentiel de celle-ci, tant on peut penser que les tensions et les conflits à venir risquent d'être quand même à répétition parce que les causes profondes, je pense, ne sont pas adressées en fait.
Donc vous pensez par exemple que des jeunes comme Joshua Wong, dont on a beaucoup parlé dans ce mouvement, et qui s'était fait connaître dès 2012 alors qu'il n'avait que 14 ans, qui avait à l'époque déjà réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes contre un programme dit d'éducation patriotique, des jeunes comme Joshua Wong, eux aussi ont une, disons, une carrière d'opposant à votre avis limitée?
Par rapport à Joshua Wong, je dirais que ma remarque était plus par rapport aux libertés publiques de manière générale, et pas spécifiquement par rapport à des leaders politiques. Mais c'est vrai que Joshua Wong, dans ce mouvement-ci, a peut-être un public moins important. Il a toujours une certaine aura au niveau international, mais je dirais que sur le plan de ce mouvement, c'est un mouvement, comme vous le savez, qui est sans leader, assez morcelé, avec tout un ensemble de groupements, mais qui reste quand même assez remarquablement unis sur le plan notamment de l'action, si pas sur le plan des idées, parce qu'il y a quand même, je dirais, un vaste éventail de positionnements. Mais néanmoins, je pense que c'est un mouvement qui reste assez uni sur le plan de l'action, mais pour le futur, on peut craindre effectivement pour les libertés publiques en camp.
En 2047, Joshua Wong n'aura que 50 ans après tout. Merci beaucoup, Eric Florence, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Les éditions Radio France présentent le livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
Que dire de sa vie ? Elle est la vie même. Un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro.
Plongé dans l'itinéraire hors du commun de cet écrivain qui incarne le XVIIIe siècle et s'autorise toutes les libertés. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsenna, une coédition France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, on est toujours un peu fébrile. Guillaume Erner sera-t-il de bonne ou de mauvaise humeur? Voilà, mais on ne sait pas. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon.
Alors de bonne ou de mauvaise humeur, on ne sait pas. Hier, surprise Guillaume Erner, Cédric Villani a annoncé sa candidature à la mairie de Paris.
Je suis comme vous hein, Julie. Je suis tombé de ma chaise, pas pour sa candidature, qui était à peu près aussi attendue que les marrons autour de la dinde, mais par une vraie disruption. Cédric Villani avait araigné la Vallière et une coupe de cheveux aussi incertaine que d'habitude. Car depuis des jours, dans Le Parisien, dans Libération, dans d'autres quotidiens, on m'expliquait que Cédric Villani s'était métamorphosé, qu'il avait abandonné araignée gros ruban et avait corrigé son désordre capillaire à l'aide d'un visagiste expert. Et puis hier, rien, le Villani nouveau est la stricte copie conforme du Villani d'hier. Grosse déception. C'est d'autant plus surprenant qu'on m'avait tout bien expliqué comment un maire de Paris se devait d'être plus sobre, une araignée en sautoir et pourquoi pas un rat, hein, y en a tant désormais dans les rues parisiennes, sa coupe de cheveux et pourquoi pas un embouteillage sur la tête. Pour être élu, Mitterrand avait raboté ses dents, Hollande s'était délesté de quelques kilos, Vauquier s'était, dit-on, blanchi les cheveux. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas complètement marché, mais peut-être faut-il être patient pour Laurent Vauquier. En tout cas, on attendait semblable effort de la part de Cédric Villani et voilà de nombreux confrères fort déçus. Il faut dire que la symbolique en politique telle qu'elle est utilisée aujourd'hui est tout le contraire d'une lecture symbolique du monde. D'ordinaire, un symbole, c'est subtil, polysémique, destiné aux initiés. Au contraire, désormais en politique, un symbole se doit d'être aussi lourdeau qu'un commentaire de reportage sur M6. Vous savez, quand la voix off vous raconte ce que vous voyez à l'image au cas où vous videriez le lave-vaisselle. Cet été, il y avait par exemple le menu à 27 € d'Emmanuel Macron, lequel signifiait qu'il prenait des menus à 27 €, autrement dit qu'il était comme nous, enfin comme tous ceux qui prennent des menus à 27 €. Là, il fallait en déduire que Cédric Villani voulait montrer qu'il était comme nous, comme tous ceux qui n'ont ni araignée ni la Vallière, enfin aussi comme tous ceux qui ne sont pas maire de Paris. Le symbole est devenu le moyen le plus pauvre de faire appel à la raison humaine, pas d'araignée pour Villani, comme si un nouveau maire ne pouvait pas être appelé araignée.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et je sais que c'est une phrase que vous affectionnez, Julie, pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable pouvoir dîner. On connaît surtout le Beaumarchais, auteur de théâtre, créateur du Barbier de Séville. et du mariage de Figaro, eh bien on va en parler avec Éric Orsenna dans quelques instants. Il sera notre invité aux environs de 7h40 et puis on parlera rentrée littéraire. Nous serons en compagnie de beaucoup de nos camarades, notamment nous serons avec Olivia Gesbert et Arnaud Laporte de La Dispute. Et puis il y aura également nos camarades de l'Obs, puisque c'est une matinée commune avec eux pour parler donc de cette rentrée littéraire. En attendant, c'est la rentrée du 7h, car il est 7h sur France Culture.